Midi et une minute, la suite d'Infomag, on retrouve Gilles Ménage et ses invités.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ce nouveau numéro de notre magazine citoyen. Un magazine au cours duquel nous allons évoquer aujourd'hui la situation du handicap en Nouvelle-Calédonie. Comment les institutions, les associations en charge du handicap vivent la crise insurrectionnelle et ses conséquences? Quelles sont les mesures prises par l'exécutif? Autant de questions que nous allons aborder dans cette émission avec Cyrielle Cabar, qui est directrice du GIP Handicap, Dépendance et Bien Vieillir, avec Jean Sausset, qui est président du collectif Handicap, avec Jean-Philippe Roux de l'association des diabétiques et Dominique Tribali de l'ACEAD, qui est l'association pour le soutien des enfants déficients. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. J'avais envie de commencer, Jean Sausset, cette émission par un petit clin d'œil. On sait qu'à partir de demain s'ouvrent à Paris les Jeux paralympiques. On va évidemment souhaiter bonne chance à nos trois représentants qui vont concourir pour ces Jeux. Est-ce que, à votre avis, cette organisation sportive, c'est l'occasion de faire un focus national, évidemment, pas forcément calédonien, sur la situation du handicap?
Alors, merci. Oui, alors on se réjouit, en tout cas dans le secteur du handicap, d'avoir justement ces Jeux paralympiques, hein, parce que ça permet de considérer le monde du handicap comme tout citoyen, comme tout sportif. Et donc c'est avec joie qu'on va suivre toute cette période sportive. On peut remarquer qu'à tous les niveaux, vous avez plusieurs catégories de handicap. Hein, donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces personnes-là ne se sont pas laissées mourir, entre guillemets, dans leur coin, mais ils se sont mis dans le sport et ça leur permet de participer à la vie citoyenne comme tout le monde aujourd'hui grâce au sport. Et on se réjouit que effectivement les Jeux Olympiques consacrent une partie pour le paralympique.
Parce qu'on imagine qu'il y a aussi à côté de ça, en parallèle des épreuves, des actions de sensibilisation du grand public, ça permet aussi au grand public de découvrir des handicaps, de découvrir qu'on peut effectivement surpasser un certain nombre de handicaps et aller vers la performance.
Alors effectivement, et j'invite la population à suivre ces Jeux, parce que j'ai vu récemment un reportage où on voit plusieurs sportifs, hein, les athlètes en handicap, et c'est tellement formidable de voir tout ce qu'ils peuvent réaliser, ce qu'ils peuvent faire dans leur situation. Et donc, alors malheureusement, nous on a déploré que les Jeux Olympiques se terminent, on est à la flamme, et après on rallume pour le monde du handicap. Alors bon, c'est comme ça, mais j'espère que dans le futur, on pourra, dans la foulée, continuer à avoir les Jeux paralympiques juste derrière les Jeux Olympiques normaux, entre guillemets, et ça pourrait donner une meilleure dynamique au monde du handicap.
Alors, la crise du 13 mai, évidemment, lorsqu'elle a éclaté, a impacté tous les secteurs de l'économie, on le sait, tous les secteurs de la vie sociale, de la vie en société, j'allais dire en Nouvelle-Calédonie. Comment vous l'avez vécu, vous? Est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez été victime d'exactions à des titres divers, Cyrielle Cabar, par exemple?
Oui, nous avons eu nos locaux d'incendiés. Donc là, nous sommes dans des locaux temporaires au centre d'aide par le travail. C'est Madame Bernu qui nous a gentiment proposé cette alternative. On est encore en recherche de locaux aujourd'hui et je pense que tout le monde autour de la table a été impacté de cette façon-là. C'est pas forcément simple aujourd'hui de rechercher des locaux dans un contexte de crise. Et en plus, comme vous le savez, aujourd'hui, notre membre en charge du secteur, donc Monsieur Thierry Santin, on porte la maison de l'autonomie pour demain, qui sera un point d'entrée unique pour les usagers en situation de handicap et en perte d'autonomie, donc les seniors. Aujourd'hui, on avance pas à pas et je pense que tout le monde est dans ce cas-là. Je sais que Madame Tribali aussi a été impactée au niveau de la ZEAD et aussi mon collègue Monsieur Roux pour les centres de dialyse. Donc voilà, je lance un appel
Pour, voilà, l'appel pour est lancé locaux. Avec des locaux accessibles aux handicapés.
C'est ça, préciser, c'est ça.
Pas avec des escaliers à gravir ou des marches, etc. Oui. Dominique Tribali, comment vous avez vécu ça? Vous avez été impactée, vous aussi?
Alors, nous, par chance, notre local n'a pas subi de dommages en lui-même, mais comme il est situé à l'entrée des tours de Magenta, eh bien, c'est vrai que l'entrée des tours de Magenta a subi beaucoup de dégâts, on a subi longtemps, et il y a toujours... pour le moment, nous avons décidé de ne pas accueillir nos jeunes, qui... C'est un public vulnérable, en fait, de par...
Vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est que l'association.
Oui, alors c'est une association qui accueille des enfants, des adolescents ou des adultes qui ont une déficience intellectuelle. Mmh. Voilà, donc de par justement cette déficience intellectuelle, on considère que c'est un public vulnérable qui a besoin d'être protégé. Et pour le moment, on n'a pas souhaité les faire revenir dans notre local. Donc on les fait sortir, on les accueille en plein air quand il fait beau, et puis on nous accueille en cas d'intempérie à la maison qui accueille des personnes retraitées à Wemo, qui s'appelle Les Orchidées. Donc c'est Madame Masson qui nous a gentiment prêté une salle. Voilà, on s'organise un petit peu comme on peut. En allant chercher à droite et à gauche des solutions.
Jean-Philippe Roux, vous l'avez vécu comment, vous, au niveau de l'association des diabétiques?
Nous, au niveau de l'association des diabétiques, c'est-à-dire 3/4 de nos actions ont été annulées, car on ne pouvait pas se déplacer dans le nord, on ne pouvait pas se déplacer quelque part. Donc là, c'était toujours bloqué. Même moi, dans notre secteur, sur Dimbaye-sur-Mer, on était vraiment, ouais. Vraiment impossible de sortir. Donc voilà. Sinon, pour l'instant, ça devient aussi le nerf de la guerre, comme toutes les associations, c'est les subventions. On ne sait pas si on va continuer, si on ne va pas continuer. Voilà.
Alors, il y a énormément de questions qui se posent en ce moment. On voit bien, hein, Jean Saucet, il y a des questions évidemment financières, il y a des questions aussi probablement d'impact psychologique, parce que c'est évident qu'à partir du moment où il y a moins d'actions qui peuvent être menées, il y a peut-être aussi une solitude psychologique qui s'installe chez beaucoup de personnes en situation de handicap. Il y a énormément de questions. Hein.
Oui, effectivement, énormément de questions. On ne peut pas imaginer, comme ça, au premier regard, tout ce que ça a pu impliquer de difficultés dans la vie de tous les jours, notamment pour ce public, ce secteur du handicap. Donc, il y a des choses qui sont faites. Là, en ce moment, on est en train de réunir toutes les associations par le biais de la FOL pour essayer de faire une liste des problèmes et pour récolter des fonds peut-être à l'extérieur du territoire, donc auprès soit de l'Europe, soit de l'État français, pour les associations, parce que l'ensemble des associations, elles sont toutes plus ou moins d'utilité sociale, publique ou autre, mais on sait pertinemment qu'on va commencer à taper dans le dur en octobre-novembre, et que si on ne fait rien... À la fin 2024, début 2025, toutes les associations, il y en a 13 200 aujourd'hui sur le territoire, toutes les associations vont en pâtir, et certaines, notamment les nôtres où il y a beaucoup de bénévoles mais pas beaucoup de moyens financiers, elles vont mourir. Donc il faut imaginer que tout ce public qui fréquente ces associations, si demain elles venaient à avoir des difficultés financières et mourir, mais qu'allons-nous faire? Parce qu'il appartient aux institutions, donc à l'autorité, de s'occuper, parce que nous, on fait un peu le travail, on apporte notre aide pour au pouvoir public. Donc si demain, toutes ces associations, elles sont par terre, je ne peux pas imaginer... Alors, si moi, je prends pas de bien vieillir les personnes, les seniors, mais je prends, par exemple, le monde du handicap, il y a plus de 10 000 personnes en situation de handicap sur le territoire. Si demain, les moyens financiers ne sont plus là, avec le régime ou avec les aides que apportent les bénévoles et les associations... ça va être la catastrophe.
Le tissu associatif, Cyrielle Cabard, il est absolument essentiel au fonctionnement. Hein.
Le tissu associatif, aujourd'hui, il a porté un secteur et je pense qu'il est essentiel à la continuité justement de ce qu'apporte le collectif handicap, le MCI et tant d'autres associations qui œuvrent pour ce pan de notre vie quotidienne, oui, pardon, excusez-moi. Demain, je rejoins M. Saucet. Demain, je ne vois pas comment on pourrait faire sans le tissu associatif. dans la maison de l'autonomie qu'on porte avec Monsieur Santa, j'aimerais bien aussi avoir une permanence des associations. Ouais. Donc avec mes collègues autour de la table, on en discutera à tête reposée. Mais c'est sûr qu'on n'y arrivera pas sans les associations.
Jean-Philippe Roux, on parle beaucoup des bénévoles. On imagine qu'il y a une certaine crise. On parle même de crise du bénévolat en ce moment, puisque les gens sont bon, ils ont d'autres, tout simplement, et on peut les comprendre, ils ont d'autres préoccupations quotidiennes très importantes.
Tout à fait. Le bénévolat, actuellement, il est vraiment en voie de disparition, car c'est très, très dur à avoir des bénévoles pour nous aider. Le bénévolat... est en voie de disparition.
Vous le ressentez, vous ?
Tout à fait.
Oui. C'est un sentiment général, on a l'impression.
Oui, absolument. C'est de plus en plus... Alors, on a, dans le bénévolat, c'est beaucoup de personnes d'un certain âge, pour pas dire plus ou moins des seniors, mais on voit bien que la nouvelle génération, elle n'a pas été formatée, préparée à ce bénévolat. Et donc, nous, aujourd'hui, dans toutes nos activités, on a du mal à inclure des personnes plus jeunes et à les intéresser même. Donc là, on sait pertinemment qu'à moyen terme, on va avoir de gros soucis.
Alors, il y a une autre question, on en parlait un petit peu juste avant, c'est la question du budget, la question des subventions. Où est-ce que vous en êtes les uns les autres ? Est-ce que vous avez de quoi tenir pour l'instant ? Monsieur Sausset parlait il y a quelques instants d'une sorte d'échéance, là, octobre-novembre. Comment ça se passe pour vous, les uns les autres ?
Moi, je peux le dire, puisque je représente une partie des associations, donc au niveau du collectif handicap, on a eu la chance, Dieu merci, entre guillemets, d'avoir notre subvention annuelle juste avant les émeutes. Donc le gouvernement nous a versé notre subvention. Donc du coup, on peut assurer le fonctionnement du collectif jusqu'en fin d'année, puisque c'est une subvention annuelle qui ira jusqu'en fin 2024. Par contre, pour l'année prochaine, aujourd'hui, on nous demande de nous préparer, de préparer les budgets 2025. Là, on commence à s'inquiéter, parce qu'on sait que toutes les institutions et les collectivités n'ont pas... les moyens financiers aujourd'hui, donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous répondre. Donc nous, on va reproduire la même chose que cette année, mais sans savoir si réellement. Donc si on n'a pas, ben, ça sera la mort de notre structure, ça c'est sûr. Alors, au sein du collectif, il y a plusieurs associations qui sont membres du collectif, qui n'ont toujours pas reçu leur subvention de 2024, ce qui veut dire que malheureusement, elle risque de ne pas les recevoir. C'est pour ça que je dis que octobre-novembre, on va être vraiment dans le dur.
La question qui se pose évidemment, c'est que, c'est le scénario du pire. Mais enfin, s'il y a un certain nombre d'associations qui disparaissent, c'est synonyme de solitude totale pour les gens qui étaient accompagnés. Dominique Tribali.
Oui. Alors nous, c'est vrai qu'on va. On fait face aussi à des difficultés financières parce qu'on n'a pas reçu également l'ensemble de nos subventions 2024. On pourra fonctionner jusque fin novembre. Et après, on a du personnel éducatif, du personnel, une personne à temps partiel pour l'administratif. Mais on est en train de réfléchir et de s'organiser. On ne va sans doute pas pouvoir garder ce personnel parce que moi, je suis allée à la DEPAS et à la DAS. Et effectivement, ils nous assurent que ces personnes que nous rémunérons, mais par l'intermédiaire de subventions, les subventions ne seront pas versées en 2025.
Ça veut dire c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis plusieurs semaines maintenant de l'accompagnement de l'État sur les secteurs essentiels de l'économie calédonienne qui ont été impactés par la crise. Il y a évidemment le tissu économique propre, les usines, les entreprises qui ont brûlé, etc. On parle beaucoup aussi des biens privés qui ont été détruits. On parle mais on ne parle pas beaucoup des associations, finalement, parce que c'est quand même un des secteurs essentiels de l'économie en Calédonie. On sait que le territoire est un territoire qui est quand même très solidaire. Enfin, il y a beaucoup de solidarité en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il faut justement lancer un appel à l'État pour que justement ce tissu associatif soit préservé au risque de faire des dégâts plus importants encore dans la société ?
Oui, moi je dirais Jean Saucet. Oui, merci, c'est l'occasion d'être à l'antenne pour attirer l'attention, parce que dans tous les rapports que l'on peut voir aujourd'hui, je viens d'en lire un ce matin de S2SR, le fameux rapport qui est présenté là, pour essayer de trouver des solutions pour faire avancer à tous les niveaux. On parle d'association entre guillemets, mais sans vraiment en parler. Donc les associations ne sont pas vraiment au cœur de la problématique. Et alors, je ne dis même pas le secteur du handicap, parce que j'ai vu nulle part parler, dans tous les rapports que j'ai pu voir en ce moment, je ne vois pas de rapport sur le handicap. Donc je m'interroge et je me dis, mon Dieu, il faudra vraiment qu'on force peut-être des portes pour leur dire, mais attendez, n'oubliez pas quand même ce monde-là, parce que ça risque d'être problématique pour eux dans pas très longtemps, sachant que ce sont des associations avec la plupart des bénévoles. Donc il faudra répondre à leurs demandes, parce que ce monde-là, il risque d'être vraiment en difficulté. Donc c'est vrai que financièrement, il faut qu'on consacre quand même, de tous les projets que l'on a sur la reconstruction du pays, économique, sociale, santé, il faut quand même prévoir une case pour le monde du handicap et des associations.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre d'urgences. On a entendu hier au Congrès, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, au Congrès, Françoise Suvet alerter le gouvernement sur la question des auxiliaires de vie, qui apparemment sont dans une situation extrêmement compliquée. Hein, Cyril Cabat, on peut en parler ?
Oui, c'est une situation compliquée. Alors déjà, on n'a plus de transport. Donc ce sont des personnes qui dépendaient aussi de pas mal de transports en commun. Je sais que des travaux sont en cours au gouvernement justement à ce sujet-là pour sortir un statut déjà des auxiliaires de vie, donc en collaboration avec le tissu associatif, les différentes directions du gouvernement, la DTE, la DAS, la DTE-FP maintenant qui n'est plus la DTE, donc la DAS. Mmh. C'est un sujet, donc je pense qu'il faut laisser le gouvernement travailler sur ce point-là. Et nous sortir quelque chose avant que la situation ne devienne encore plus critique, je pense.
Un mot sur cette maison dont vous parliez tout à l'heure, c'est quoi ce projet exactement ?
Alors ce projet est parti des trois plans qui ont été établis, le schéma directeur du handicap et de la dépendance.
Voilà qui est là.
Monsieur Saucet y a participé en 2016, ça a commencé. Le plan d'Ocamo 2018-2028 et le plan Bien vieillir en Nouvelle-Calédonie qui a rendu ses travaux en 2023, donc avec Madame Bernu, que vous avez reçue il n'y a pas longtemps. Donc le but de la Maison de l'Autonomie aujourd'hui, c'est la mutualisation des services, parce que le constat est que on n'a pas un point d'entrée unique. Donc demain, on aimerait avoir un guichet unique territorial, de façon à ce que la personne qui vit à Ponérioin, par exemple, ait le même point d'entrée unique, avec les mêmes formulaires, avec
les mêmes interlocuteurs.
Voilà,
parce que c'est,
qu'il n'ait pas à se déplacer, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de points d'entrée, et les gens ne savent plus vers qui se tourner pour faire reconnaître son handicap ou sa dépendance. Et on ne peut pas demander à des gens de faire 400 km pour venir à Nouméa et faire sa reconnaissance. Donc le but de la Maison de l'Autonomie, ce sera ça, ce sera de mutualiser donc, le pôle gérontologique qui s'occupait de la dépendance pour la province sud, et ensuite le service du handicap et de la dépendance qui est situé à la DAS, donc la Direction des affaires sanitaires et sociales, qui s'occupe de la reconnaissance du handicap, pardon, excusez-moi, du handicap et de la dépendance pour le Nord et les îles, et du handicap aux provinces sud. Donc demain, ce sera un seul point d'entrée. Les gens viendront à la Maison calédonienne de l'autonomie pour faire leur reconnaissance et demander justement des aides sociales, un plan d'accompagnement personnalisé et ce qui déroule. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont confrontés à un parcours du combattant. C'est pour faire se reconnaître en fait en tant qu'handicapé ou en tant que personne dépendante. C'est une vingtaine d'étapes. Ouais. Donc on peut pas se permettre de laisser les gens continuer à errer de service en service. Et demain, la Maison de l'Autonomie pourra raccrocher tous les services et mutualiser pour offrir justement une information et une orientation claire aux gens, quoi.
Ça fait partie notamment des choses qu'on a entendues ce matin du gouvernement qui présentait son plan de refondation, reconstruction et de sauvegarde. C'est qu'il y a une volonté là qui s'affiche, qui semble s'afficher en tout cas de rationaliser un peu les choses, parce que vous le disiez un petit peu avant qu'on commence cette émission, Jean Saussé, on a du retard en France sur la question du handicap.
Oui, alors, moi qui fréquente beaucoup les pays anglo-saxons, je le répète, c'est vrai que la France, elle a 20 ans de retard sur les pays anglo-saxons, et malheureusement, à la Calédonie, je dirais 30 ans. Donc, on a beaucoup de choses encore à faire. Je ne dis pas que rien n'est fait, parce que depuis la loi de 2009, il y a beaucoup de choses qui ont progressé, qui ont avancé. Je reconnais, hein, et moi-même, j'ai participé au schéma directeur du handicap, hein, puisque à un moment donné, j'avais pour mission de le finaliser. Et donc, les choses avancent. Mais comme aujourd'hui, dans nos institutions, nous n'avons pas soit un regard, soit une priorité sur le monde du handicap, forcément, les choses, elles vont petit à petit. Donc là, j'ai 2-3 projets de textes de loi de pays qui sont en cours, que je voudrais bien faire passer. Bon, le schéma directeur, il n'a jamais été validé par le Congrès. Hein. Donc, c'est quand même un comble. Hein. Dedans, c'était vraiment... on parlait du guichet unique, etc. Donc, Dieu merci, le guichet unique, il va se mettre en place. Mais ce n'est pas normal. Les élus ne prennent pas la considération. Donc, on a eu un peu d'écoute en fin d'année dernière par le Congrès, qui a voulu aller sur terrain, voir un petit peu comment se passe la vie des personnes en situation de handicap. Donc, on était très ravis au collectif handicap et au MCI d'avoir pu avoir cette attention. Mais on s'aperçoit quand même qu'en Calédonie, il y a un monde du handicap. Et on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les services appropriés pour faire que ces citoyens soient considérés comme des citoyens lambda, comme tout le monde. Donc c'est un peu... Alors c'est vrai que ce retard, il va être long à combler, voilà, mais il avance tout doucement.
Et puis il y a aussi la question qui se pose, c'est de la simplification peut-être. Le guichet unique, ça y participe, j'imagine, puisqu'il y a... des compétences qui sont partagées entre communes, provinces, etc. Et c'est un peu ça qui rend complexe les parcours des uns et des autres, c'est ça ?
Oui, mais il y a plusieurs projets quand même en cours. Hein. Là, par exemple, cet après-midi, après, moi, j'ai une réunion sur la station N, sur l'inclusion numérique. Donc, on avance. Il y a quand même des choses qui sont proposées. Donc, ça avance. Mais bon, malheureusement, les émeutes ont fait que ça va retarder. Et c'est là notre douloureuse... situation aujourd'hui, parce que là où on avait un peu d'espoir en début d'année et avec les institutions, avec le gouvernement et tout, c'est un peu ralenti, freiné, parce que dans cette dynamique, nos espérances vont s'atténuer un petit peu, parce que il faudra s'occuper d'autres choses avant de s'occuper du monde du handicap. Et donc c'est là où on est un peu triste, parce que ça mettra encore plus de temps pour finaliser et réaliser toutes nos attentes.
Est-ce que ce genre d'inquiétude, par exemple, dans les associations, Dominique Tribelli, c'est quelque chose que vous ressentez, l'inquiétude des parents, par exemple, ou même des enfants eux-mêmes? Est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte d'inquiétude sur l'avenir, sur la façon dont tout ça va être accompagné?
Je pense que les gens découvrent un petit peu au fur et à mesure ce qui se passe. Au départ, on ne s'en est pas rendu compte. Et puis, petit à petit, oui, on prend la mesure des choses et on s'aperçoit que ça va devenir de plus en plus difficile. Après, les parents d'enfants, d'adolescents, en général, essaient de protéger leurs enfants. Donc, ils mettent leurs enfants un peu dans un petit cocon. Mais certains s'en rendent compte. Hein, y a tellement de dégâts partout et... que même avec une déficience intellectuelle, certains s'en rendent très bien compte. Et c'est sûr que ça joue sur leur santé mentale. C'est difficile. Hein. Moi, j'ai ma fille qui me dit « je veux partir, j'ai peur ici, je ne suis pas tranquille ». Donc, même avec une déficience intellectuelle, oui, ils se rendent compte de la situation et ça les impacte.
Jean-Philippe Roux, on imagine qu'avec vous suivez des gens qui sont donc diabétiques, il y a eu un moment où c'était évidemment très compliqué, vous l'avez dit tout à l'heure, de les transporter, de les voir tout simplement. Il y a quelque chose d'extraordinairement frustrant là-dedans, de ne pas pouvoir justement garder ce contact, faire les choses que vous faisiez.
Tout à fait. Bon, après on avait le contact téléphonique ou par mail, on pouvait se contacter. Mais là, actuellement aussi, c'est qu'il y a un gros souci, c'est-à-dire avec l'alimentation, parce que vu que maintenant, on ne trouve presque plus rien, où on mange les diabétiques ou les personnes lambda mangent n'importe quoi. Donc, on va développer encore de plus en plus de diabétiques. Une chose, bon, ben, là, pour l'instant, elle a été mise en stand-by, c'est la taxe sur le sucre. Donc là, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Autre chose... Il y a aussi le développement, comme je disais, avec la mauvaise alimentation, tout ça. Donc, on va développer de plus en plus de diabétiques. Et le manque de médecins. Là, actuellement, on a de plus en plus de professionnels qui s'en vont. On a un Medipol qui en a de moins en moins. Et le manque de médicaments. Car il y a beaucoup, même chez les diabétiques, il y a des médicaments qui manquent. Chez les dialysés, il y a des médicaments qui leur manquent. Ça devient catastrophique.
Ça veut dire qu'il va falloir effectivement lancer un certain nombre d'alertes à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer raisonnablement, Jean Saucet, de ce qui se passe, de cette crise ? Est-ce qu'on va en sortir ? Quelles sont les raisons d'être optimiste ?
Alors...
Ne restez pas silencieux trop longtemps.
Faut-il être optimiste ou pessimiste ? Donc on va dire, pour la volonté que font part preuve un peu tout l'entourage, on va dire faut être optimiste. Donc je dirais que oui, il faut se pencher maintenant sur cette problématique, trouver des solutions. Alors effectivement, cette situation permet aussi de revoir un peu le fonctionnement et la vie des Calédoniens, parce que peut-être que pendant très longtemps, on a vécu avec des valeurs un peu différentes et à des niveaux différents. Donc peut-être que cette situation va permettre de réguler et de réorganiser un peu notre fonctionnement, notre vie. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier toutes les couches de la population et notamment ce monde du handicap et associatif, parce que ce sont les moteurs de bien des secteurs. Et donc, il faut que nos institutions et nos politiques, sur tous les programmes qu'ils vont travailler, aient quand même un regard et un point de traitement pour toute cette partie. Donc nous, on essaye quand bien même au collectif handicap. Ils ont la chance d'avoir un président qui est lui-même en situation de handicap. Donc voilà, moi je comprends un certain nombre de choses. Je connais les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc du coup, ça me facilite pour aborder les différents problèmes. Mais c'est vrai que aussi bien au niveau santé, au niveau insertion professionnelle, etc., il faudra que même si on veut relancer l'économie, le travail et tout, il ne faudra pas oublier justement toutes ces personnes. Il y a 4500 personnes, travailleurs handicapés, qui sont à la recherche d'un emploi. Donc dans cette problématique qui nous arrive, il faudra justement ne pas les laisser de côté et les inclure dans tout ce que l'on veut remettre en place pour relancer. Nous, on a monté une structure pour faire de l'accompagnement de soutien psychologique, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs handicapés qui viennent nous voir tous les jours. Donc moi, j'ai monté avec une agence cette structure pour s'occuper d'eux, parce qu'ils sont vraiment en détresse. Ils ont beau venir ou déposer des CV. Alors, vu la situation avec tous les 20 000 chômeurs, c'est vrai qu'eux, ils ne vont pas trouver. Donc moi, ce que je demande à tout le monde, c'est n'oubliez pas, il faut tenir compte de ces personnes qui sont travailleurs handicapés et qui sont encore plus dans la détresse, parce que eux, entre ce qu'ils reçoivent du régime ou pas, eh ben, s'ils n'ont rien, s'ils sont laissés pour compte, c'est une population qui va être... on va avoir des soucis avec eux, de toute façon, au niveau santé et tout, parce qu'ils vont se dépérir, et puis ça risque d'être compliqué après.
Cyrielle Cabard, est-ce qu'il y a effectivement, comme le dit Jean Saucet, des raisons de penser que cette crise peut d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, être utile et permettre un certain nombre d'ajustements ?
Oui, on pourra voir plusieurs mutualisations des différents services. Moi, je reste optimiste quand même parce qu'on évolue dans une société en Calédonie où les gens sont solidaires, où on vit dans une société où on partage. Dans ma vie personnelle, je fais partie d'un club de service avec M. Saucet, justement, le Kiwanis, au service des enfants du monde. Et on le voit, les Océaniens, ils sont généreux. quand on fait des levées de fonds, quand on fait des actions, on a ce sentiment-là. Et je pense qu'il faut rester optimiste. Mais demain, c'est sûr qu'il faudra faire des économies et peut-être, oui, passer par une mutualisation de plusieurs services.
On va rester sur ces belles paroles d'optimisme. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous dans cette
émission.
Merci
à vous aussi.
Qui sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute audio sur notre site internet www.rrb.nc. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une belle après-midi sur Radio Rythme Bleu et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Citoyens.
Le magazine Citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Le magazine Citoyen, merci à Gilles Ménage et ses invités.